Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout à l'heure, comme d'habitude, après cette émission. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire au quotidien, et c'est-à-dire vous-même. Et aujourd'hui, nous recevons Nathalie Lapassouze et Carla Boitart, fondatrice de l'association Colocadi. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour. Et on a aussi Marc qui est là.
De nouveau, bonjour Jean-Philippe,
bonjour
à tous.
Marc. Bonjour, on va passer une petite émission ensemble, on va découvrir nos invités et leurs projets. Voilà, d'ailleurs c'est une aventure, la vie des fois. Mais d'abord on va écouter le flash info national et international, on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti pour cette émission. Alors la tradition ici, quand on demande aux invités, nous raconter un petit peu une petite bio, une petite trajectoire personnelle, mais dans le cas présent c'est intéressant parce que c'est aussi votre trajectoire est intimement liée au sujet de l'émission et à votre association et à votre projet, donc ce sera intéressant d'entendre un petit peu ce qui vous est arrivé. On va commencer par Carla, si Carla veut bien se prêter à cet exercice. Parlez-nous de vous, Carla.
Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Carla Boitart, avec un nom qui n'est pas très landais, puisque je suis belge, embarquée dans les Landes depuis 27 ans maintenant, par mon mari, qui a trouvé du boulot à Morsinx. Donc ça, on fera un petit retour aux sources très rapidement après, puisque notre projet va se faire à Morsinx. Je suis maman de 3 enfants. Donc, enseignante de formation, mais je n'ai pas travaillé dès que je suis arrivée dans les Landes, car Lucas avait 6 mois et à 2 ans, il a eu un diagnostic de tendance psychotique. On a erré comme ça pendant un petit moment pour que je dise au pédopsychiatre, il est autiste. Ah, c'est vous qui le dites. Donc, il y a 27 ans en arrière, nous ne savions pas encore trop ce qu'était l'autisme. Donc, parcours, prise en charge pour Lucas. Et moi, formation, je ne comprenais rien du tout. Donc, je me suis formée et voilà. Lucas a eu un parcours... Ah oui, non, je parle de moi en fait. J'ai embarqué sur l'histoire de mon fils. C'est le troisième, donc c'est lui qui a complètement changé... notre vie, parce que tout a tourné un peu autour de lui. Voilà, donc je n'ai pas retrouvé de boulot. Et voilà, donc jusqu'à ce que, par mes formations, par la rencontre de parents, je rencontre une autre maman et qui nous a embarqués dans notre fameuse aventure Colocadi. Je ne serai pas plus longue là-dessus. Ah,
très bien, mais l'autre maman, elle est justement pas loin, je crois.
Oui.
Nathalie.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Nathalie Lapassouze. Je suis maman de 2 enfants. Je suis landaise pure souche. Parents, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents à la totale.
On remonte
on
va loin là.
Oui, au mouton, je pense, avec les échasses et tout et tout.
Bah, très bien, très bien.
Landaise, coiffeuse à Dax pendant des années. Plus coiffeuse, parce que justement, voilà, un enfant est arrivé, un premier enfant. Je dis est arrivé parce que mes enfants sont des enfants adoptés. Théo, qui a bientôt 23 ans, est arrivé à l'âge de 9 mois et demi parmi nous. Et très vite, on a vu qu'il avait des troubles, qu'il avait des problèmes, qu'il avait des incapacités déjà, en tout cas des crises d'épilepsie très importantes. Et ça nous a obligés à consulter, mais pour le coup on n'a jamais été dirigé vers l'autisme au départ. Nous c'était de la déficience et beaucoup d'épilepsie. De fil en aiguille, Théo a été un petit peu à l'école, très peu. Entre temps sa sœur est arrivée, plus grande elle, lui avait 9 mois et demi, Naïka avait 3 ans et demi quand elle est arrivée. Et elle est arrivée dans une famille pareille, bouleversée par le handicap, parce que très vite on s'est aperçu qu'en fait ce serait compliqué, même si on n'avait pas vraiment de diagnostic posé. Et de fil en aiguille, on avance, il y a un petit peu d'école, très peu, il y a de la CLIS, un peu plus adapté. Et puis très vite, il y a surtout l'IME, donc l'Institut médico-social, médico-éducatif, pardon, à Dax.
Les Pléiades.
Les Pléiades.
Voilà.
Et là, en fait, Théo est bien. Donc nous, on se laisse porter par tout ça parce qu'il ne pose pas trop de problèmes. Il a des difficultés avec le groupe, mais sans plus. À l'époque, il dort bien, il mange bien. Il n'a plus d'épilepsie puisqu'il est traité. Mais très vite, en fait, on s'aperçoit que l'après va arriver et que l'après, il faut le préparer.
Et
là, donc, viennent des rencontres de différents parents, et notamment de Carla. Elle dit c'est elle qui nous a embarqués, mais en fait, on s'est embarqués toutes les deux, parce que on se voyait depuis longtemps. On n'allait pas trop ensemble toutes les deux. Je ne sais pas, on avait deux gamins de profils différents. Et du coup, l'IME nous a réunis parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Et c'est très vite qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Parce que effectivement, ce qu'on nous proposait pour l'après, déjà, il n'y a pas de place. Et même s'il y en avait, on avait envie d'autre chose. Voilà. Pas quelque chose de mieux, quelque chose de différent.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, l'IME, les Pléiades, il faut dire qu'on a reçu deux gamins autistes l'an dernier avec une éducatrice. Ils venaient à leur demande, hein, c'était pas une émission, ils sont venus, ils voulaient visiter la radio, comme tous les gamins, hein, ils ont envie de découvrir. Et en fait, je parle de ça parce que c'est le podcast qui a eu le meilleur score de la radio. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu, je sais pas combien, entre 7 et 8 000 vues. Parce que voilà, c'est pour dire quand même que... c'est peut-être un sujet qui touche les gens, parce que pour qu'il y ait autant d'intérêt, c'est une preuve d'intérêt quand même du public, je pense, et tous les gens qui sont à un moment donné un peu confrontés à ce problème-là, ils ont besoin d'entendre ce que disent les autres qui y sont passés avant. Ils ont peut-être un peu guidés, pris par la main, et vous savez quelle importance ça a eu dans votre trajectoire, hein. Alors, il y a un problème souvent que j'ai entendu avec plusieurs invités de ce qu'on appelle l'errance médicale, c'est-à-dire la difficulté à ce que le corps médical donne, entre guillemets, un diagnostic, identifie quel est le problème et que vous puissiez ensuite l'intégrer. Ça, vous avez souffert de manière différente toutes les deux de cet aspect-là.
Totalement. Je commence. Donc, pour Théo, le premier diagnostic a été posé par un médecin qui n'était pas du tout spécialisé. Un médecin qui m'a dit « Votre fils est déficient et voilà, il ne sera jamais au CP à 6 ans. » Mon fils avait à l'époque 3 ans. « Il ne sera jamais au CP à 6 ans, il ne saura jamais lire ni écrire. » Ok, donc là, on a remercié le docteur, on est parti très vite. Et on s'est dit « Oui, ça risque d'être compliqué tout ça, mais on voyait d'autres choses chez Théo. » Voilà, il y avait de la déficience, mais il y avait d'autres choses qui nous faisaient dire « Je sais pas, il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre. » Donc, à force, on a fait quelques... L'IME, une fois de plus, m'a proposé des formations, donc du CRA, Centre Ressources Autisme, où là, en fait, première formation, je me suis dit « Ah, mais en fait, j'avais pas compris mon fils. Je pense qu'il a des troubles autistiques.
»
À cette époque-là, mon Théo devait avoir 13-14 ans. J'ai fait la première formation. Il y a eu un premier diagnostic CRA... qui a révélé que Théo n'était pas a priori autiste. Et je pense qu'il y a eu, Théo a dû gruger. On dit souvent que les autistes sont capables de montrer parfois le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, là, il n'a pas montré tout. Et du coup, ils sont passés à côté de ces quelque chose. Et on a obtenu un diagnostic, en fait, d'autisme, de TSA complexe, exactement, pour notre fils, il y a un an. Un an et demi. Et il a bientôt 23 ans.
Et oui, c'est effectivement... Bon, après, ce qui est vachement piégeant avec l'autisme, c'est qu'il n'y en a pas un. Et du coup, peut-être que ça aussi, ça rend les choses encore plus difficiles. C'est-à-dire qu'un individu à l'autre, ça peut être tellement différent qu'il n'y a pas un panneau marqué sur le front « Attention, je suis autiste hein. ». Donc, je pense que ça n'aide pas. Et Carla aussi, votre expérience a été compliquée.
Oui, elle a été différente dans le sens où Lucas a 2 ans. Donc, c'est ma famille qui m'a interpellée puisqu'ils venaient en vacances. Et ils nous ont interpellés parce que notre petit Lucas, là, qui marchait, qui était très, très autonome, à 2 ans, ne parlait pas. Donc, je sais que ces vacances, on l'a surnommé Mowgli. C'était notre petit sauvage, là, qui faisait sa petite vie autour de nous, tout beau, tout bronzé. C'était Mowgli. Mais là, interpellé par mon frère, qui m'a dit, tu serais peut-être bien que tu consultes. Donc là, directement, on est allé au CAMS. Et là, il y a eu une prise en charge par le CAMS. Ils sont restés en tendance psychotique pendant un moment. Puis il y a eu ce terme autiste. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont dit ou si c'est moi. Moi, j'ai le souvenir que c'est moi qui l'ont dit, mais qu'il est dit, parce que c'était peut-être trop compliqué à dire et qu'on ne savait pas trop. Et là, il y a eu quand même, il a eu un parcours qui n'est, je pense qu'il a eu, il a eu de la chance, parce qu'il a, il avait un comportement aussi facile et pas de problèmes médicaux, surtout. Oui. Donc, on est allé au CRA de Bordeaux. Donc ça, ça a quand même été notre grande chance, parce qu'il n'y a pas eu d'épilepsie, il n'y a pas eu toutes ces frayeurs-là, toutes ces angoisses du parent.
C'est plus silencieux quand même.
Oui, c'était beaucoup plus silencieux. Et donc, Lucas a évolué avec des problèmes, troubles de sommeil surtout. Je sais bien que jusqu'à l'âge de 8 ans, il n'a pas vraiment dormi correctement, et moi non plus.
Fatalement.
Non, on ne dormait pas.
Non.
Non, il dormait recroquevillé sur le plancher. C'était assez compliqué. Et on ne comprenait pas tout ça. Donc, voilà, il a eu aussi ce par... Donc, au niveau médical, moi, je, à part le CRA, où je suis, enfin, que j'ai interpellé plusieurs fois, le professeur Bouvard à Bordeaux. Maintenant, il y a Mont-de-Marsan, c'est quand même plus rapide. Hein. Enfin, je, non, plus rapide, non. Je pense que les rendez-vous ne sont pas plus rapides.
Mais le chemin, oui.
Le chemin, voilà, c'est toujours... une galère pour avoir un rendez-vous et un diagnostic, mais voilà, une fois accompagné de ça, ben, moi j'étais de, je me suis dit, ben, il faut que je me forme, quoi, c'est tout.
Bien sûr. Ouais.
Voilà.
Très bien, eh ben, merci pour toutes ces informations. Déjà, on a bien planté le décor et on voit bien ce que vous avez traversé, ce que vous traversez. Et puis vous êtes aussi des mamans, et ça, c'est pas rien. C'est, voilà, vous êtes toujours des mamans. Et on va d'abord faire une petite pause, on va écouter un petit peu de musique, on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour, on retrouve Nathalie et Carla pour notre discussion. Alors, on a évoqué votre parcours et puis la découverte du trouble de vos enfants, etc. Mais si vous êtes là, ce n'est pas juste pour parler de ça, c'est qu'en fait, un jour, vous avez dit, ben voilà, ben on va prendre les choses en main, on va faire quelque chose de ce qui nous arrive et on va s'occuper du présent et de l'avenir de nos enfants. Alors, vous avez eu l'idée de fonder donc ce Colocadi. Alors, parlons-en. Qu'est-ce donc ce projet ?
Donc, Colocadi, c'est une association, effectivement, de parents, de deux mamans au départ. Et puis ça s'est un petit peu agrandi. Et le but, c'est de créer, en fait, une maison partagée en colocation pour 7 personnes en situation de handicap, dont, alors, 5 avec autisme et 2... on imagine sans déficience. Donc ça peut être ça peut être un autiste Asperger ou ça peut être pas d'autisme du tout. Ça peut être quelqu'un en fauteuil, par exemple.
Voilà,
Le but, c'est vraiment de créer un petit peu cette... vous parliez de père aidance tout à l'heure, d'entraide. D'entraide mutuelle et naturelle.
Voilà, oui.
Carla, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, et puis on a vu le film Un petit truc en plus, et là, ça nous a vraiment touché aussi, ces différentes personnes en situation de handicap, être dans cette joie, et je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais voilà, mais on ne sait pas si ça va être réalisable, parce que des demandes pour les autistes, il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de demandes pour trouver un endroit pour les adultes, en tous les cas.
Et d'ailleurs, en quantité, parce qu'on n'a pas forcément idée de combien de gens ça représente, je ne sais pas, en pourcentage de la population ou même sur les Landes et tout. Enfin, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de gens. J'avoue que je n'ai pas cherché le chiffre, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas.
C'est beaucoup, beaucoup.
C'est de plus en plus, de toute façon.
C'est surtout, au-delà du nombre, moi, je dirais, c'est surtout, parce que c'est pareil, c'est un handicap à partir du moment où on ne s'en occupe pas et il n'y a pas les moyens mis en place pour faire ce qu'il faut. Enfin, on parle d'inclusion, c'est très à la mode, c'est très joli, c'est aussi ce qu'on veut faire. Mais en fait, il faudrait juste être tous les jours plus ouvert à l'autre, plus aidant avec l'autre, plus tolérant. Et c'est le but de cette maison, c'est se dire que, voilà, ils sont autistes, mais ce sont d'abord des personnes qui ont besoin qu'on les accompagne d'une certaine façon.
Bien sûr.
Et si c'est bien fait, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Voilà.
Alors oui, là, mesdames, là, on parle donc d'habitat inclusif. Il y a Coloc dans le nom de votre association. Je pense que c'est un peu l'idée génératrice de votre association. Comment, dans votre future maison qui sera du coup qui est en projet, c'est ça, c'est en travaux en ce moment ?
C'est pas en travaux, hélas.
Ah, pas encore.
Ça aurait dû, mais ça ne l'est pas encore.
Donc
normalement,
c'est sur Mort 5, c'est ça ?
C'est sur Mort 5 et ça devrait normalement première pierre avant l'été.
D'accord.
Donc, ce qu'on nous a promis.
Dans quelques années, très concrètement, donc on a bien compris qu'il y avait à terme 5, c'est une coloc avec 5 personnes atteintes de troubles autistiques, 2 personnes accompagnantes. La configuration de la maison, etc. Vous avez des informations là-dessus. C'est des, ils peuvent faire la cuisine chacun de leur côté ou comment s'organiserait finalement la coloc dont que vous avez imaginé quoi.
Alors c'est pas 5 plus 2, oui. C'est 7 en tout.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être a priori 5 autistes et 2 oui. non autistes oui. ou en tout cas non déficients, oui. mais c'est pas 5 plus 2
oui.
plus
oui.
autonomes et qui les accompagneraient.
Oui, oui,
ils okay. vont tous les 7 être accompagnés. Mmh. Ça c'est vraiment très
d'accord.
important. La okay. maison, oui. elle a des espaces communs,
oui.
elle a 5 chambres mmh. et 2 studios.
Mmh.
Donc les studios étant pensés pour des personnes un petit peu plus autonome que
oui,
les nôtres.
Oui.
Mais ils ont tous mmh. leur place dans cette maison.
Oui, tout à fait,
et
oui.
tous seront accompagnés par du personnel mmh. que, voilà, qu'on est en train, on est en train de mettre en place des partenariats.
Mmh.
Effectivement, ils devraient pouvoir mmh. cuisiner ensemble, ils devraient oui. pouvoir faire les courses ensemble, ils devraient pouvoir peut-être aller alors, travailler. On mmh. va dire
oui.
Trouver une place dans la société mmh. pour être valorisé par ses mmh. rôles sociaux. Voilà,
bien
si
sûr,
je reprends
sûr.
Le terme
oui.
à la mode.
Oui.
C'est se dire qu'ils ont besoin d'habiter ensemble. Il faut qu'ils apprennent ça.
Mmh.
Mais ils ont aussi besoin d'aller vers les autres mmh. et d'avoir d'être acteurs, vraiment,
oui.
de leur vie.
Mais c'est donner un sens, ne pas être que dans l'occupationnel tout le temps.
Oui.
Voilà,
oui,
poney,
bah, sûr,
piscine
oui.
et...
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Il y a autre chose à faire mmh. aussi dans leur vie
oui.
et cette valorisation est vraiment importante et on le voit ils sont contents de faire quelque chose.
Mmh. Bien sûr.
Voilà.
Oui. Bien sûr, on a reçu un ESAT la semaine
oui.
dernière et donc
oui.
Voilà, on a eu le témoignage d'une jeune fille autiste justement qui disait voilà que le fait d'être passée de la vie extérieure, on me dit à l'ESAT, ça l'avait soulagée aussi de toutes les peines qu'elle ressentait de vivre après les gens qui sont pas autistes, qui la comprenaient pas forcément. Et puis le travail aussi, c'est pas que juste de l'argent qui permet de payer un loyer, la nourriture et des loisirs.
C'est un rôle social. Oui.
C'est un rôle social super important.
Oui,
on parle d'inclusion, mais voilà. Quand on n'est plus au travail, on se sent un petit peu... D'ailleurs, en tant que maman sans travail, c'est pas forcément évident. On a besoin des assos et d'aller rencontrer des gens, discuter. C'est super important, ce lien social.
Oui, et au départ, je ne l'ai pas cherché.
Mmh.
Parce que uniquement dans ma bulle, hein, je crois que je suis peut-être devenue aussi autiste, quelque part, parce qu'il y avait cette protection et ce décalage par rapport aux autres.
Oui.
Mm. Je ne m'y retrouvais pas parce que je commence vraiment à mettre des mots maintenant parce que mon mari est à la retraite et c'est lui qui prend le relais un petit peu qui me soulage et donc dans les transports parce que Lucas est en unité de jour donc on va le conduire et on va le récupérer donc moi je suis toujours comme une maman qui va conduire son gamin à l'école mm-hmm. et qui le récupère donc
oui,
j'ai
voilà,
toujours
ouais.
ce rythme là
mm-hmm.
et il ne comprenait pas pourquoi je ne m'investissais pas dans des ouais. activités.
C'est le piège
j'avais
de les
la
danses,
journée
hein. C'est le piège de les danses hein.
Oui. J'avais la journée pour moi, mais c'est pas vrai, j'avais pas la journée pour
oui.
moi. Parce que j'avais les 2 autres enfants aussi à gérer, une mmh. maison, et mmh. le mois ne passait pas.
Oui. Oui.
Donc ça, j'ai pas eu cette reconnaissance, et je pense que je redécouvre tout ça par l'association, parce qu'on a créé toutes les deux, et cette reconnaissance, on en a besoin pour Colocody, mais moi, sincèrement, je crois que j'en ai aussi besoin, et ça
bien
m'apporte
sûr. Pour vous-même, oui, oui.
du
oui,
nouveau
bien
dans
bien
ma
sûr.
Vie,
oui,
vraiment.
Oui.
63 ans, donc il n'est jamais trop tard hein, pour bien,
bien sûr,
faire.
Bien sûr. Non, mais c'est, voilà, c'est le problème de l'aidant. C'est vrai qu'à
oui.
un moment donné, il y a beaucoup d'associations qui aident non pas forcément les malades, mais les aidants des malades parce qu'on se perd. Voilà, c'est normal aussi, c'est l'instinct. Voilà, on parlait encore le fait de maman ou papa. C'est normal, on se sacrifie pour les enfants qu'on a. C'est normal, on est là pour ça. Hein.
Cette notion de non-répit, jamais, en fait, dans l'autisme, que je voudrais moi mettre en avant parce que. Tout le monde nous dit oui, mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, bien sûr, ça va aller. Mais en attendant, ça va pas. En attendant, c'est compliqué à gérer tous les jours. En attendant, c'est comme tu disais, c'est des allers-retours sans arrêt. Je me rappelle une petite anecdote, une maman avec 3 enfants me disait, elle était éreintée parce qu'elle allait conduire ses 3 enfants, alors l'un à la danse, l'autre à la musique et le troisième à la gymnastique. Oh, j'en peux plus, tu comprends, c'est ça 3 fois par semaine.
Oui.
Et moi, j'ai répondu, ben, moi, c'est la même chose,
bon.
Mais chez les docteurs.
Oui. Oui.
Le kiné, l'ergo, le psychomote,
oui.
Et puis ça
ne
s'arrêtera pas à 18
voilà.
ans.
Voilà, et c'est
non.
moins drôle. Et ça ne s'arrêtera pas.
Et les soucis
ça s'arrêtera pas à 18
constamment, hein, la charge mentale. Bon, déjà, la charge mentale d'une femme est très lourde dans notre société. Alors quand en plus, elle doit gérer ça, hein, voilà, Voilà, ça fait beaucoup. En parlant de charge mentale, et on va soulager la nôtre en faisant une petite pause. On se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Alors moi, j'avais une petite question parce que on a parlé de vous, du projet, un petit peu de tout ça. Et parlons un petit peu de vos garçons, Théo et Lucas. Comment est-ce qu'ils vont se situer par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont déjà au courant du projet? Est-ce qu'ils en sont acteurs? Ou comment est-ce que vous allez gérer ça?
Bon, alors pour Lucas, je ne lui ai pas encore parlé de la maison où il y allait y habiter. Il connaît Colocadie, il connaît les rencontres, donc nous avons instauré tous les vendredis avec le SAVS de Caminante, donc des rencontres qui se font tous les vendredis après-midi avec nos quatre jeunes identifiés. Donc là, il y a déjà une reconnaissance du groupe. Donc pour ça, Lucas, il est OK. Je ne lui en ai pas parlé parce que je ne veux pas déjà provoquer d'angoisse. C'est trop long cette notion de temps, la durée, c'est oui. Quand Colocadie, ça sert à rien. Donc quand la maison sortira de terre, on pourra commencer à exprimer et puis à raconter que Lucas, eh ben, il va aller dans la maison pour la semaine parce que Lucas, il grandit comme son frère qui est parti à Bordeaux pour la semaine et il rentrera le week-end à la maison. Ça fera partie de son parcours à lui, ce sera sa maison, sa chambre qu'il pourra décorer, qu'il pourra vraiment s'accaparer et s'identifier dans sa chambre. Donc c'est plutôt comme ça que je vais présenter les choses avec Lucas.
D'accord, très bien. Parlons de Théo alors.
Pour Théo, je ne lui en ai pas parlé non plus, pour les mêmes raisons. C'est tout ce qui n'est pas réel, qui ne voit pas, en fait, génère de l'angoisse.
Oui.
Mais par contre, il a compris. Donc, il a passé un petit week-end de répit il y a 15 jours. Ça n'avait rien à voir avec Colocadie. Et quand il est parti de là-bas, il a dit au revoir Colocadie, parce qu'en fait, pour lui, le fait de se retrouver entre adultes, le week-end, hors de l'IME, en fait, c'est quelque chose qui va sûrement... Voilà, il a compris que c'est quelque chose qui allait être son devenir, en fait.
C'est le moment Colocadie.
Exactement.
Ouais, ouais.
Et il l'a identifié comme ça, il l'a compris comme ça et... Lui en parler plus que ça, non. Ça n'a pas d'intérêt parce que la maison n'est pas construite. Le jour où la maison sortira de terre, effectivement, là, c'est pareil. On pourra commencer à lui dire, tu vois, les rencontres avec tes copains du vendredi, ça va être plus long. Ça va être sur des journées entières. Et puis, à un moment donné, il y aura tant de dodo, voilà, pour y rester. Et ça deviendra ta maison. Je pense qu'il va très bien le comprendre aussi. Il comprend la notion de stage. Il comprend la notion de, voilà, autre chose, comme Colocadie. Pour la vie d'après. Après, voilà, ta maison plus tard, trop... Non, pour l'instant, c'est trop compliqué.
Et puis, je pense qu'ils voient les autres aussi. Ils voient les autres qui sont dans ce fonctionnement-là. Ils s'en vont à un moment donné, ils quittent l'IME, donc voilà, ils deviennent adultes. Et je pense que ça, c'est ça où ça prend un peu plus de sens pour eux.
Oui, on a toujours... Il faut quitter le nid à un moment donné. Même si on n'en reste pas très loin. Mais ça, c'est normal. Alors, du coup, j'allais dire, au niveau casting, vous en êtes où? vous avez donc déjà des gens que vous avez déjà pré-sélectionnés pour cette colocation.
Il y a quatre garçons là.
Quatre garçons.
Ça va de 18 ans à.
20 ans maintenant, il a 20 ans.
Ah bon?
Et l'autre, il a 20 ans.
20 ans à 37, je crois, le plus âgé. Donc il y a Lucas, Théo, Vincent et Elliot qui sont. Tous les quatre accompagnés, donc tous les vendredis après-midi de l'association Caminante, par le biais de leur SAVS, qui les amène donc sur Morsinx, où ils font des rencontres avec, voilà, c'est très cool pour l'instant, c'est du goûter, c'est des petits ateliers, des balades, des choses comme ça, donc tout se passe bien. Ça fait quand même un an que ça a été mis en place, et depuis un an, on voit que c'est de plus en plus facile pour tous d'y aller, de revenir relativement apaisé et de passer vraiment un bon moment. Tout est repéré, donc c'est, on va dire que ça commence à bien rouler.
C'est progressif.
Il va falloir augmenter le temps de prise en charge et peut-être la durée et puis vraiment que ce soit plus régulier, que ça arrive plus souvent. Et peut-être mettre une nuit en place aussi de temps en temps.
Et oui, parce qu'il va falloir gérer ça,
On a encore un an, on va le faire. Cette année, on a ce projet-là.
Alors justement, c'est pas sorti de terre encore. Où en est le projet exactement? Parce que bon, vous êtes pas maçon ni voilà. Donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir ce logement concrètement et financièrement parlant? D'où ça vient tout ça?
D'où ça vient?
Ouais.
Essentiellement du département, de la commune de Morsinx. Le département avec également XL Habitat, donc le bailleur social landais, qui... Ça s'est passé, en fait, on a rencontré le maire de Morsingues, M. Paul Carrère, il y a 4 ou 5 ans de ça. Il a lu notre projet, il y a cru. Tout de suite, il nous a dit, moi, j'ai une parcelle de 11 000 m² sur ma commune que je peux, voilà, donner à XL Habitat. Et dessus... ils feront construire la maison pour Colocadie et il y a aussi une résidence qui est prévue de 12 appartements, logements sociaux. Donc ça part de là. Et au fil du temps, c'est des rencontres avec tous ces gens, c'est du travail aussi avec le département des Landes, avec tous les acteurs autour de l'autisme, qui a fait que maintenant, on est avec XL Habitat qui a reçu un permis de construire positif. Donc, on sait qu'on peut faire construire cette maison-là. On attend maintenant, les appels d'offres ont été lancés, je crois, avec les artisans. Donc, on attend ce retour-là pour pouvoir vraiment débuter le chantier. On nous a dit, avant l'été, normalement, première pierre.
D'accord.
Donc, à partir de là, les financements, c'est... Il reste encore pas mal de choses à construire, mais en gros, chaque jeune a droit à une AAH, ce qu'on appelle donc une allocation adulte handicapé, et il a droit aussi à une pension de compensation de handicap, une PCH.
D'accord.
Ce sont ces deux primes-là qui vont pouvoir gérer d'une part le loyer, tout ce qui est fluide de tous les jours, et d'autre part, la partie accompagnement qui devrait être assurée en partie, en tout cas, par des personnes volontaires du CIAS de Morsinx.
D'accord.
On aime cette idée très sociale du projet, en associant vraiment tous les acteurs locaux pour pouvoir vraiment développer tous ces partenariats. Pour bien les accompagner, il faut bien les connaître. L'idéal, ça aurait été qu'on puisse déjà intégrer dans les vendredis au niveau des rencontres des auxiliaires de vie du CIAS pour qu'elles commencent à apprendre un petit peu à vivre, à regarder un petit peu nos jeunes, voir comment ils fonctionnent. Voilà. Et voilà.
C'est à venir.
On est en train de construire tout ça. On a les grandes bases, il y a déjà des choses qui existent et qui fonctionnent de cette façon-là, il n'y a pas de raison que pour nous ça ne marche pas, c'est encore à travailler, à détailler, à... Voilà, on est en train de défendre une notion un petit peu plus autistique du projet, c'est-à-dire qu'il faudrait en plus de tout ça, de l'accompagnement quotidien pour la vie autonome, pour tout ce qui est voilà, se laver, manger, faire ses courses, s'occuper de sa chambre et des espaces communs, il faudrait en plus pouvoir... dégager un temps éducatif vraiment qui était indispensable dans l'autisme. Et c'est vraiment ce qu'on revendique parce que sans ça, nos jeunes ne pourront pas justement acquérir correctement cette autonomie.
Avec une personne dédiée, c'est ça qui viendrait
C'est important dans l'autisme qu'il y ait cette stimulation constante. Ils ont des acquis et ces acquis, ils peuvent toujours augmenter. Ils peuvent toujours apprendre. Toujours. Ce n'est pas... Je sais, quand j'ai rencontré Nathalie, elle avait son Théo avec son diagnostic de déficience. Eh bien, elle disait, mais non, il ne va pas avant, il ne va pas progresser. Et quand on voit maintenant, rien que cette ouverture avec ce diagnostic d'autisme, il y a une autre ouverture, mais Théo, il évolue. Et ça, c'est quand même... C'est merveilleux. Et ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Donc, on a besoin de ça. Lucas, il a eu aussi régulièrement, il a eu assez tôt une éducatrice qui venait à domicile. Puis, il y a eu la CLIS, etc. Donc, Lucas est lecteur, enfin, a appris à lire, mais je n'ai jamais compris l'intérêt. Enfin, il ne s'en servait pas. Jusqu'au moment où je vois que maintenant, Lucas, il a une tablette et il va sur Google, il regarde par rapport à ses intérêts restreints, il a ses DVD, etc. Donc, lui, c'est tout ce qui est dessin animé. Ben, il cherche et il écrit, etc. Donc, il s'en sert à un moment donné.
Ben oui,
c'était peut-être pas dans le moment où nous, on voudrait, mais ça arrive. Donc, il faut les stimuler, il faut les éduquer.
Très bien. Eh bien, on va déjà faire notre dernière pause, mesdames. Je vous ai dit que ça allait vite. On va écouter encore un petit peu de musique. On se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Voilà, de retour pour la dernière partie de cette émission avec Nathalie et Carla. Quels sont vos besoins? Parce que profitez-en, vous êtes à la radio, vous avez des oreilles qui vous écoutent. Et quels sont vos besoins là, en l'état actuel du projet? De quoi vous avez besoin?
Ben, nous, ce dont on a besoin là, maintenant, c'est... Pour une question bien pratique, pour pouvoir déjà ouvrir le groupe, il nous faudrait déjà un véhicule. peut-être. Hein, oui. Donc ça, mais ça va créer donc des... Bon, si on parle sous, on n'a pas fini, donc on va peut-être résumer très rapidement. Hein, donc on est preneuse de toute façon d'aide, ouais. Puisqu'il y aura à meubler la maison, il y aura une cuisine à installer, il y aura mm-hmm. tout ça. Donc tout ce côté-là, c'est très pratique et c'est très réel. Donc mm-hmm. l'argent, on en a besoin.
Bien sûr.
De quoi avons-nous besoin d'autre ?
Au-delà de l'argent, je trouve qu'on a vraiment besoin d'être connu. Mmh. La communication, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué, mine de rien. Hein. On croit mmh. qu'on est connu. En fait, on est connu des gens qui travaillent avec nous,
voilà.
les partenaires. Mmh. Mais les personnes autour, c'est difficile quand même de toucher les gens parce, mmh. que, parce qu'on ne s'identifie pas toujours à ce genre de projet quand on a un enfant autiste déficient. Mmh. Ce n'est pas évident quand on dit dans notre projet, nous, on veut qu'ils habitent ensemble, mais on voudrait aussi qu'ils aient... travailler, mmh. attention, pas travailler forcément avec une notion de salaire derrière,
oui,
mais bien être acteur de cette vie mmh. et avoir toutes ces relations sociales qu'on peut trouver donc dans le milieu professionnel. Il faut vraiment qu'on puisse être vu de tout le monde, d'un plus grand nombre en tout cas, pour que les gens comprennent bien le projet et qu'ils puissent se dire... Ben, moi, j'ai envie que mon fils, ma fille, aille habiter dans cette maison. J'ai mmh. bien envie d'essayer. Et puis, même si ça ne marche pas, je dirais, personne n'est certain que nos enfants adhéreront mmh. tous jusqu'au bout à ce projet-là. On le souhaite, bien entendu, on mmh. va faire en sorte que oui. Mais quoi qu'il en soit, ce sera déjà une expérience hyper importante mmh. dans leur vie d'autiste. Ils n'en ont pas tant que ça.
Ben, oui, oui.
Donc, cette expérience-là, il faut pouvoir la dupliquer. Mmh. Il faut pouvoir en faire de plus en plus et pour un plus grand nombre. Mmh. C'est vraiment ça. Et puis après, oui, de sous, de mécènes. S'il y a des riches personnes qui nous écoutent, oui. qui ne savent pas quoi faire de leurs sous, surtout
même pas riches. Hein,
tout à fait.
C'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oui. Hein. Et puis après, est-ce que vous avez envisagé de participer, alors je ne sais plus si cette année ou l'année prochaine, au budget participatif des Landes, parce que des fois, ça finance des besoins, notamment, je parlais du véhicule, c'est typiquement le genre de choses qui peut être budgétisé avec ce budget participatif des Landes.
Jusqu'à maintenant, on s'est vraiment consacré à penser à notre projet, à se dire c'est mmh. ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il nous faut. Maintenant qu'on sait ce dont on a besoin, ouais. effectivement, on va pouvoir aller vers ce genre de mmh. oui, budget participatif.
Excuse-moi Nathalie, je te coupe, mais ce dont on a besoin, c'est de personnes qui peuvent nous aider dans
ces
recherches.
C'est ce que
parce que
dire, voilà.
nous ne sommes que deux mamans.
Mais oui, ça. Vous êtes une association, donc les associations, elles ont besoin de bénévoles, de gens.
Oui.
J'espère qu'à l'issue de cette émission, du coup, vous allez communiquer dessus et partager. Il faut que les gens entendent ça. Vous avez peut-être des gens proches, très proches ou un peu plus éloignés géographiquement, mais qui pourraient participer, se dire bah, je vais donner un coup de main à ces deux super nanas pour ce projet, que ça fonctionne, parce
Bienvenue.
Que si on avait ce problème, le même problème que vos enfants, on aimerait avoir la chance d'avoir des mamans qui se battent autant. Hein, c'est parce que c'est quand même pas mal. Hein. Donc, bien entendu, avec ce podcast, il y aura un lien vers vos réseaux sociaux ou sites internet pour que les gens puissent éventuellement vous contacter ou vous suivre votre actualité aussi, parce que ça, c'est forcément, le genre de projet qui attire la sympathie.
Grand merci.
En parlant d'actualité, justement, on vous invite oui. tous à notre balade sensorielle en toute simplicité, comme on a dit à tout le monde. Donc, c'est vendredi 10 avril, mmh. de 14h30 à 16h30, à Morsinx, c'est sur le site donc, du lac d'Arjusan. C'est pas à la plage connue. Du oui. lac d'Arjusan, mmh. c'est de l'autre côté.
Oui.
Et donc, sur notre page Facebook, vous avez toutes les coordonnées GPS pour pouvoir atteindre le lieu de rendez-vous. Et
oui, de toute façon, c'est l'occasion de faire un petit peu de marche et de faire le tour du lac, parce que c'est une balade très sympa. Hein.
Il va faire beau.
Surtout là, voilà, avec le temps qu'il fait, là, je crois que c'est un endroit vraiment assez beau.
Il y a un petit goûter de prévu.
Il y a un petit goûter, amenez vos goûters, vos gourdes. Et puis après, voilà, on va pouvoir échanger, discuter, déjà se rencontrer et passer un bon moment.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous parler de votre projet. Voilà, c'était... c'est un hasard. Enfin, il se trouve que c'est le mois de l'autisme.
Tout à fait.
Voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet qui reste d'actualité toute l'année. On n'est pas, confronté à ce problème un mois par an. Hein, c'est à vie. C'est tout le temps. Oui.
Juste un dernier petit mot. Un grand merci, déjà, pour tout ce qui a été fait à la commune de Morsinx. Son maire, M. Carrère, a... Oui. Au département XL, franchement, c'est le XL département, top. Et qui, l'association Caminante, voilà, tous les gens, tous les partenaires, toutes les assos qui nous accompagnent et qui travaillent avec nous régulièrement, c'est chouette et c'est ça qu'il faut développer. C'est le plus important.
Très bien. Eh bien, bonne continuation. J'espère que vous avez trouvé vos colocataires et que ça va rouler, mesdames.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.